Bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. Au microphone, Hélène Denis. Octobre 2017. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Est-ce que vous avez été victime de panne d'électricité hier parce qu'il y a plu fort et à un moment donné, plus de courant?
Non, j'ai été chanceux. Le courant n'a pas manqué, mais pendant ce grand épisode de vent,
oui.
J'ai arrêté. C'était quand même assez impressionnant de voir les bourrasques.
Ah oui.
C'était bruyant, c'était beau, mais en même temps, on sait que ça crée des dommages.
Quand on sent sécurité, ben c'est sûr qu'on le vit autrement. Et puis, cette espèce de vent fou a fait en sorte que ce matin, on gèle. Hier il faisait chaud.
Tout à fait.
Et puis aujourd'hui, il fait...
Il faisait 5 ce matin.
Même en dessous, hein?
Oui, c'est un temps d'automne.
Oui,
c'est
un temps d'automne, mais il paraît que l'été va revenir, même en fin de semaine. À suivre. Alors, on vous suit, vous, avec vos éphémérides.
En ce 16 octobre, nous sommes la journée mondiale de l'alimentation. Et également, on souligne en ce 16 octobre la journée mondiale du pain. Donc, je ne sais pas laquelle des deux est venue avant. Les deux vont bien sûr de pair. Et pour continuer à faire des liens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces 4 mêmes lettres du mot pain, P-A-I-N, en anglais, pain, signifie douleur.
Mm-hmm.
Et en ce troisième lundi du mois d'octobre, nous sommes la journée mondiale contre la douleur.
Tout est dans tout, comme dirait Raoul Duguay.
Et également, journée mondiale de la colonne vertébrale. Donc, un quadruple pour aujourd'hui, en ce 16 octobre. Nous allons... tout d'abord, en l'an 708, la fondation du sanctuaire du Mont Saint-Michel. En 1793, à Paris, place de la Révolution, au cri de « À mort l'Autrichienne », la reine Marie-Antoinette est guillotinée. 16 octobre 1902, première utilisation de la comparaison des empreintes digitales pour identifier un criminel. Et oui, ça date de 1902. 1916 à New York, ouverture d'une première clinique de contrôle de naissance. 16 octobre 1923, création de The Walt Disney Company par, bien sûr, Walt Disney. 1945, lors d'une réunion à Québec, création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. 16 octobre 1968, sur le podium aux Jeux olympiques de Mexico. Pendant l'hymne national, deux athlètes brandissent un poing ganté de noir pour dénoncer le sort fait aux Noirs aux États-Unis. 1970, après les raids du FLQ, le gouvernement Trudeau invoque la loi des mesures de guerre et des centaines de personnes, bien sûr, seront arrêtées sans mandat, on s'en rappelle. 1978, toujours un 16 octobre, à Rome, le cardinal de Cracovie, Karol Wojtyla, est élu pape. C'est donc Jean-Paul II qui devient le premier pontife non-italien, le premier non-italien depuis 1542.
Jean-Paul s'appelait Carole.
Exact. Ce n'était pas son vrai nom. Désolé, vous tombez des nues, je sais, ce matin. 1996, un petit peu moins cocasse, dans un stade comble au Guatemala lors d'un match de qualification en Coupe du Monde, une bousculade fait 83 morts. 16 octobre 2002, la Corée du Nord, la très célèbre Corée du Nord, déclare aux États-Unis qu'elle possède un programme secret d'armement nucléaire. On en parle encore aujourd'hui. 2003, la Chine réussit son premier lancement dans l'espace d'un vaisseau habité. Et je vous ferai grâce de ne pas tenter de prononcer le nom de ce vaisseau spatial, car mon mandarin n'est pas très très fameux. 16 octobre 2008, le mafioso notoire Niccolò Rizzuto, à 84 ans, obtient sa libération après avoir purgé une peine de 2 ans de détention. Le 16 octobre, c'est également l'anniversaire de naissance de plusieurs personnes, on s'en doute, et je me contenterai de 2 très grands noms. Le compositeur et chanteur québécois Claude Léveillé, né le 16 octobre 1932, lui qui nous a quittés il y a maintenant 6 ans. Et également naissance en 1856 à Dublin de Fingal O'Flaherty Wills, c'est-à-dire l'écrivain Oscar Wilde.
Ah oui, merci Jean-Sébastien. À la une de la presse d'aujourd'hui, une usine de potes dans mon sous-sol, des employés qui remplissent une feuille de temps, un employeur qui tient des bulletins d'évaluation de ses travailleurs, une gestion de déchets élaborée, portrait en 8 ans de la sophistication d'une organisation criminelle. Bilan de mi-mandat, les bons et les mauvais coups de Trudeau. soins palliatifs pédiatriques, s'amuser jusqu'au bout, dernier volet de notre émouvante série. Et art, le nouveau combat de Dan Bigra, il parle de son cancer, il écrit sur son enfance. Une usine de potes dans mon sous-sol, résidence protégée par des pulvérisateurs automatiques de gaz de poivre, système de verrouillage magnétique, pouponnière, feuille de temps et bulletin d'évaluation des employés, une organisation criminelle de production de cannabis d'une sophistication rarement vue, a été démantelée par les enquêteurs du service de police de la ville de Montréal en juin 2015, selon ce que révèle un jugement rendu récemment contre le locataire d'une maison qui abritait une importante plantation de marijuana. Le locataire contre lequel un jugement a été rendu est l'une des 38 personnes arrêtées par les enquêteurs de la division du crime organisé du SPVM dans le cadre du projet Arbuste. L'enquête avait débuté au mois de janvier précédent à la suite d'informations fournies par des sources enregistrées. Au total, plus de 325 policiers appartenant à 7 corps de police ont pris part à l'enquête qui a duré 6 mois. Au cours de cette enquête, les limiers n'ont pas lésiné sur les moyens parmi lesquels on retrouvait de la surveillance vidéo et l'installation de caméras vidéo, d'appareils à infrarouge et de balises de localisation. Le jour de la frappe, les policiers ont mené des perquisitions à une quarantaine d'endroits, dont 9 plantations de marijuana, 2 pouponnières et 2 usines de transformation de marijuana, notamment à Montréal et dans les Laurentides. Ils ont mis la main sur 25 000 plants de cannabis, plus de 80 livres de marijuana prêts à être distribués, de l'équipement de production évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars et une somme de plus de 240 000 dollars, dont 200 000 trouvés dans la résidence de la tête dirigeante. Parents, amis et proches de Clément Ouimet se sont rassemblés hier au chalet du Mont-Royal pour rendre hommage au jeune cycliste de 18 ans mort le 4 octobre dernier à la suite d'une collision avec un véhicule sur la voie Camillien-Aude. Hier, en début d'après-midi, la famille a d'abord rencontré des cyclistes venus rendre hommage au jeune homme. D'anciens coéquipiers de Clément Ouimet étaient également présents. Tous affirmaient que sa détermination les avait inspirés. Les proches et les amis de Clément Ouimet ont eu ensuite l'occasion de lui dire un dernier adieu au cours d'une cérémonie privée qui a eu lieu aux environs de 16 heures. La présidente de Vélo-Québec, Suzanne Larreau, qui connaît personnellement les parents de Clément Ouimet, affirme que c'était un bel hommage à l'image de la famille de Clément. Des amis sont venus témoigner. C'était très bien, c'était un bel élan de solidarité et d'amour. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnes voulaient soutenir la famille, a affirmé Mme Larreau. La mort de Clément Ouimet a provoqué une onde de choc dans la communauté cycliste de Montréal. Plusieurs voix se sont levées pour demander à l'administration municipale de prendre de nouvelles mesures pour sécuriser le déplacement des cyclistes sur la voie Camillien-Aude. La ville a rallongé le garde-fou central du Belvédère sur une distance de 30 mètres après la courbe de la voie automobile. Elle a installé des panneaux de signalisation à plusieurs endroits sur la voie qui rappellent aux automobilistes que les virages en U sont interdits. Des afficheurs de vitesse ont également été installés sur la voie. Ces mesures provisoires qui rentreront en application le 20 octobre semblent plaire à la présidente de Vélo-Québec. J'ai vu qu'il y a des affiches de vitesse, c'est bien. Il y a également des caméras qui permettent à la ville d'évaluer l'efficacité de ces mesures. Toutefois, Mme Larreau estime qu'il faut encore plus que ça pour sécuriser les cyclistes dans le secteur. J'aurais aimé qu'il y ait des pancartes avec des pictogrammes. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y a uniquement des panneaux en français. C'est pour cela que je voudrais bien qu'il y ait des pictogrammes pour aider les personnes et les touristes qui ne parlent pas français à comprendre, dit Suzanne Larreau. Les bons et les mauvais coups. Le premier ministre Justin Trudeau riposte aux attaques de ses adversaires à la Chambre des communes en critiquant encore aujourd'hui le bilan de 10 ans de l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. Mais cette stratégie est de moins en moins efficace. Les libéraux ont maintenant leur propre bilan à défendre. Voici une liste de bons et de mauvais coups du gouvernement Trudeau. Après 2 ans de pouvoir, c'est un article de Joël Denis Bellavance. Les bons coups, relations canado-américaines depuis l'arrivée au pouvoir de l'imprévisible Donald Trump à Washington. Les relations canado-américaines sont mises à rude épreuve et les conflits commerciaux se multiplient. Le litige commercial entre Bombardier et Boeing, le conflit sur le bois d'œuvre et les difficiles négociations visant à moderniser l'accord de libre-échange nord-américain font partie de la liste. Malgré les nombreuses déclarations inquiétantes de Donald Trump, le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres ont su garder leur calme, recevant l'éloge des nombreux experts. Rayonnement du Canada à l'étranger, ça fait aussi partie des bons coups, accueil des réfugiés syriens, égalité homme-femme, à l'issue de la cérémonie de prestation de serment de son premier cabinet, on a demandé à Justin Trudeau pourquoi il avait opté pour la parité homme-femme au sein de son équipe ministérielle, parce que nous sommes en 2015, avait-il alors répondu du tac au tac. Cette réplique s'est insérée dans les discours politiques à Ottawa, tout comme cette déclaration du premier ministre selon laquelle il se dit « féministe ». Les mauvais coups, abandon de la réforme électorale. La réforme du mode de scrutin était l'une des promesses phares des libéraux durant la dernière campagne. Mais le gouvernement Trudeau a largué cette promesse après qu'un comité parlementaire eut tenu des audiences publiques et soumis un rapport qui ne faisait pas l'unanimité parmi les formations politiques représentées à la Chambre des communes. Autre mauvais coup, réforme fiscale, politique culturelle, la ministre du Patrimoine Mélanie Joly croyait faire un bon coup en dévoilant sa politique culturelle à la fin du mois de septembre. Mais ce qui a surtout retenu l'attention, c'est le refus du gouvernement Trudeau d'imposer la TPS sur les abonnements vendus par Netflix. Flou entourant le retour à l'équilibre budgétaire. Les dossiers à suivre, légalisation de la marijuana, litige commercial Bombardier, Boeing, avions, achat d'avions de chasse. Santé, sécurité au travail. Hydro-Québec passe au crible la totalité de ses pratiques de santé et sécurité au travail. Après avoir scruté ses grands chantiers, dont celui de la Romaine sur la Côte-Nord, où 4 hommes ont trouvé la mort depuis 2009, la société d'État étend l'examen mené par une firme externe à l'ensemble de ses divisions et de leurs 19 500 employés. Milliards de dollars plus tard, les programmes du Fonds vert n'ont toujours qu'un effet marginal sur les émissions québécoises de gaz à effet de serre, GES, confirment les derniers états financiers. Des résultats qui font dire à l'opposition que le programme est une hausse d'impôts déguisée. La ligne rose et la FE causent des flammèches. L'hypothétique ligne rose du métro et les nébuleuses finances du Grand Prix de Formule électrique FE l'été dernier à Montréal ont causé quelques flammèches entre les deux principaux candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante et Denis Coderre, sur le plateau de l'émission « Tout le monde en parle » diffusée hier soir. Un premier duel à tu et à toi qui s'est animé au gré des questions des invités de l'émission. C'est un autre invité de l'émission, Dan Bigrat, qui a sonné la charge. La course électrique, c'est une excellente idée, mais il me semble impossible qu'on ne soit pas capable de déterminer avant les élections combien ça a rapporté, a lancé l'artiste. Le promoteur a répondu aux questions. Il y avait 45 000 personnes à répliquer le maire sortant. Oui, mais combien ça a rapporté est revenu à la charge d'Anne Bigrat, en rappelant que lui aussi, il en donnait des billets pour ses spectacles. On ne peut pas le dire. Il y a eu 45 000 personnes, il va y avoir un rapport final. Mais ce premier événement a été un succès, a répété Denis Coderre. L'un des sujets de la semaine, Projet Montréal, en a fait l'un de ses principaux engagements pour désengorger les lignes actuelles du métro, un projet estimé à 6 milliards, on parle de la ligne rose ici. Denis Coderre a ridiculisé l'idée de cette ligne de 29 km traversant Montréal en oblique. On est tous pour plus de métro, a-t-il lancé. Mais ça va plutôt coûter 10 milliards, a-t-il ajouté, rappelant le coût du prolongement projeté de la ligne bleue sur 5 stations qui coûtera 3 milliards.
Je t'aime, le sort en est jeté, et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles, je déjouerai la mort, je viendrai qu'un. Tu m'appelles. Je t'aime, je t'aime. Et déjà cet amour érigé en système enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution. Les statues et que résonne ton prénom.
Récent extrait de Philippe B. Je t'aime, je t'aime. C'est tiré de son album La Grande Nuit Vidéo.
À la une du Devoir de ce lundi 16 octobre 2017, une photo. Et sous cette photo, on peut lire les participants de l'activité ont fait un arrêt à la mosquée Al-Islam dans l'arrondissement Saint-Laurent, la toute première mosquée au Québec construite en 1965. En lien avec la nouvelle intitulée « Le Montréal musulman en autobus », j'y reviendrai à 10h45. La SAAC appelle à un virage « sécurité », entre guillemets. La Mauritanie, là où l'esclavage persiste. Le monde, Trump, l'Iran et la réalité, une chronique de François Brousseau. Idées, métissage ou repli sur soi, une chronique de Louise Beaudoin. Le Monde, double attentat meurtrier en Somalie. La mouvance djihadiste conserve son pouvoir. Élection municipale Gatineau, siège de la bataille des deux tours. Agnès Varda et J.R. déclinent la notion de portrait dans Visage, Village. Et le pari osé du commerce maritime sans pétrole. Et à la nouvelle, la Mauritanie, là où l'esclavage persiste, il y a une photo sous laquelle on peut lire après des années de servitude, Boubacar Messaoud a obtenu sa liberté et a fondé l'association SOS Esclaves. Diminution de la vitesse dans les rues résidentielles, contrôle policier près des passages pour piétons, aménagement systématique de trottoirs et de pistes cyclables. La protection des personnes les plus vulnérables est au cœur des priorités des citoyens en vue de la réforme promise du Code de la sécurité routière, CSR. Les Québécois veulent des villes à échelle humaine où l'on peut se déplacer en toute sécurité. Peut-on lire dans un rapport de la Société de l'assurance automobile du Québec? Ce document de 63 pages fait la synthèse des consultations menées le printemps dernier par la SAAC en vue de réviser le CSR. Le gouvernement Couillard s'est engagé il y a 3 ans à améliorer le Code de la sécurité routière, entre autres pour protéger le nombre croissant de cyclistes, de piétons et de personnes qui ont des difficultés à se déplacer, notamment à cause du vieillissement de la population. La SAAC a transmis le mois dernier ses recommandations à l'ex-ministre des Transports, Laurent Lessard, en vue d'une réforme du CSR, indique-t-on. M. Lessard s'était engagé à déposer un projet de loi cet automne dans le but d'amender le CSR. Le dossier est désormais entre les mains de son successeur André Fortin, nommé au transport lors du remaniement ministériel de la semaine dernière. Des dizaines de militants ont marché dimanche 15 km pour réclamer une augmentation du salaire minimum à 15 $ l'heure. On ne devient pas riche avec un salaire de 15 $ l'heure. Ça donne seulement la possibilité à des gens qui sont en mode survie de se sortir la tête de l'eau, mentionne Manon Labelle, une manifestante rencontrée par Le Devoir. La préposée aux bénéficiaires à la retraite a toujours dû se serrer la ceinture avec ce qu'elle qualifie de salaire décent. Lorsque j'ai pris ma retraite en 2015, après 37 ans de carrière, je gagnais 19 $ l'heure et laissez-moi vous dire que je n'ai jamais vécu dans le luxe. Les gens qui gagnent 11 $25 sont nombreux à devoir faire un choix entre payer leur loyer ou manger, fait-elle valoir. Au Québec, 219 600 personnes travaillent au salaire minimum. Les manifestants demandent à Québec d'imiter l'Alberta, l'Ontario, dis-je bien, et la Colombie-Britannique qui hausseront leur salaire minimum à 15 $ l'heure dans les prochaines années. En janvier dernier, la ministre du Travail, Dominique Vien, a avancé la cible d'un salaire minimum de 12 $45 pour 2020. Après la hausse de 50 cents en 2017, Québec prévoit des augmentations de 50 cents en 2018, 35 cents en 2019 et 35 cents en 2020. Dans la section éditoriale, une lettre intitulée « Madame, je lis, vous tombez bas ». « Madame, depuis que vous vous êtes soumise à Netflix, j'ai tout lu et tout entendu sur cet événement fâcheux. Depuis la première minute, je ménage les mauvais sentiments à votre endroit. Mais aujourd'hui, en lisant à la une du Devoir que vous aviez fait la sourde oreille à la mise en garde de votre sous-ministre qui vous conseillait de ne pas céder devant Netflix et que vous avez pris une décision au détriment de l'économie nationale et des budgets de tous les citoyens du pays nommé Canada et contre tous les artistes, les comédiens, les musiciens, les peintres, les écrivains, les poètes et tous les producteurs et diffuseurs de nos œuvres qui sont le corps même du patrimoine, je suis sortie de mes gonds. Au Québec, vous avez mis notre langue dans le jeu du perdant. Vous n'avez même pas pu vous défendre contre les critiques qui vous ont été faites dans votre langue maternelle. Votre langue de bois est même à zéro au tableau noir. Oui, madame, je vous trouve les pires défauts. Des personnes, vous avez élues de bonne foi et avec confiance. Vous les avez trompées cyniquement. Votre entente de soumise nous écorche l'espoir. Vous nous offrez l'appauvrissement commencé par Harper. Les chanteurs ne gagnent plus de quoi payer le pain et le beurre. Mes droits sont devenus si ridicules que même l'armée du salut est devenue trop chère pour nous. Vous faites monter la rage en toutes nos fiertés. Vous nous préparez à un avenir de guenillou. Il est de mon devoir d'intervenir. Alors, madame, recevez par la présente une demande officielle de votre démission et au plus tôt possible. Cette demande vaut aussi pour votre entente et toutes celles que vous avez signées que nous considérons comme non avenues et déchirables. Je vous prie de me prendre très au sérieux et sachez que votre soumission est une insulte pour chacun de nous. Que ce soit clairement écrit, nous ne voulons plus de vous. Vous ne pouvez pas nous représenter. Et c'est signé Denise Boucher, poète, Montréal, le 14 octobre 2017. Garneau exhorte les propriétaires à la prudence. Une collision survenue avec un avion jeudi dernier n'a pas causé de dommages importants. Le ministre fédéral des Transports exhorte les propriétaires de drones à s'informer des règles encadrant ces petits appareils sans pilote après que l'un d'eux est entré en collision avec un avion commercial à Québec jeudi dernier, ce qui serait une première au Canada. Marc Garneau s'est dit extrêmement soulagé qu'un accident entre un drone et un avion commercial de la compagnie SkyJet n'ait pas causé de dommages importants à l'appareil qui a pu se poser sans problème à l'aéroport Jean-Lesage à Québec. En point de presse à Westmount, dimanche après-midi, le ministre Garneau a incité les propriétaires de drones à s'informer des règlements en place parce que s'ils se font pincer à violer la loi, ils pourraient se voir imposer une amende salée et même une peine de prison, qu'ils soient au courant des règles ou non. Elles sont deux, Renaissance et Alliance, des tours de 55 et 35 étages respectivement que le puissant promoteur immobilier Gilles Desjardins veut construire dans sa ville natale de Gatineau, dans une zone où dominent les édifices à trois niveaux. C'est un euphémisme de dire qu'elle marquerait le paysage et elle marque ces jours-ci le déroulement de la campagne électorale municipale autrement assez tranquille. Les entrepreneurs en construction et la Chambre de commerce de Gatineau alléchée par les 400 millions de dollars que Brigitte entend investir approuvent le projet. Les citoyens du quartier touché, eux, plaident pour une densification du territoire à échelle plus humaine. Le projet est devenu un marqueur dans la campagne à la mairie et divise les cinq candidats en deux clans. Vous écoutez Canal M de Vues et Voix et c'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce lundi 16 octobre frisquet, mais c'est l'automne après tout. Restez avec nous pour la suite de l'émission avec entre autres la revue de presse du Journal de Montréal.
Hold them back.
C'était la russo-américaine Regina Spektor avec la pièce Don't Leave Me, Ne Me Quitte Pas.
À la une du Journal de Montréal, il y a deux nouvelles. Ils ont perdu 80 000 $ en attendant une subvention coincée dans les dédales administratifs. L'obésité, l'ennemi numéro un dans le monde. Le surpoids lié à 40 % des cancers. Une chronique du Dr Richard Béliveau. Découverte archéologique exceptionnelle sous l'eau, une pirogue rare découverte par un plongeur amateur dans un lac de l'Outaouais. Je suis arrivée devant ce bout de bois tout à fait par hasard. Au début, je pensais que c'était une petite chaloupe, puis j'ai réalisé que c'était fait en un seul morceau, donc que ça pouvait avoir été fait par des Autochtones, relate le plongeur Guy Cobel. Pour l'archéologue Roland Tremblay, qui étudie l'objet, c'est une découverte exceptionnelle. Il s'agit d'une pirogue similaire à celle découverte dans le lac Gour en 1986 qui date, elle, du 15e siècle, c'est-à-dire de la première période de contact entre les Premières Nations et les Européens. Les découvertes de pirogues sont très rares. On en recense seulement 11 au Québec et celle qu'a découverte M. Cobel est la seule qui n'a pas été déplacée, donc qui demeure dans son contexte archéologique, explique Caroline Nantel, directrice générale du Musée québécois d'archéologie à Pointe-du-Buisson. Les analyses permettront de dater la pirogue Cobel et peut-être de déterminer son appartenance culturelle. Le travail devra se faire sous l'eau, car sortir la pirogue de l'eau la dégraderait inévitablement, indique André Bergeron, spécialiste de la préservation des objets archéologiques au Centre de conservation du Québec. Le cégep Lionel Groulx enquête sur des dépenses présumées inappropriées d'environ 9 000 $ sur la carte de crédit d'un de ses cadres qui ont servi à payer de l'alcool, des billets au Centre Bell et des produits d'épicerie. Ces achats ont été faits entre juin et octobre 2016 avec une carte de crédit corporative du cégep au nom d'Éric Boily, coordonnateur à la vie étudiante selon des documents obtenus par notre bureau d'enquête. M. Boily se défend de toute irrégularité. Il confirme être en congé de maladie pour un burn-out depuis août 2016. Il assure que ce congé n'a aucun lien avec l'enquête. Il dit avoir offert de rembourser les sommes d'ici à ce que le collège lui redonne cet argent à l'issue de l'enquête. « Ça fait 20 ans que je suis au collège et j'ai ça à cœur », dit-il. Il affirme que deux ou trois autres employés possèdent le numéro de la carte de crédit pour effectuer des réservations pour des groupes, par exemple. Est-ce qu'il y a eu fraude? On verra ça à mon retour, affirme-t-il. M. Boily était également président de l'Association des cadres de Lionel Groulx lorsque les dépenses ont été faites. À ce titre, il avait dénoncé en 2014 les coupes budgétaires imposées par le gouvernement Couillard. Il a été remplacé depuis. La chronique de Richard Béliveau, un important rapport des centres de contrôle et de prévention des maladies américains indique que pas moins de 40 % des cancers détectés aux États-Unis en 2014 étaient directement liés au surpoids, un nombre plus élevé que ceux découlant du tabagisme. La surcharge de poids est-elle devenue la cigarette du 21e siècle? Question que M. Béliveau pose. L'augmentation en flèche du poids corporel de la population qui s'est produite au cours des 30 dernières années représente une crise de santé publique sans précédent. Être trop gros est un état physiologique tout à fait anormal qui provoque des débalancements majeurs dans l'équilibre du corps et favorise le développement de l'ensemble des maladies chroniques et augmente le risque de mourir prématurément. Le grand responsable de cette explosion d'obésité qui ravage la planète est la très grande disponibilité d'aliments peu coûteux, surchargés de sucre et de gras et promus à l'aide de campagnes publicitaires incessantes et tapageuses. Tous les pays, sans exception, qui adoptent cette alimentation industrielle assistent en temps réel à une augmentation rapide du poids corporel de leur population qui s'accompagne d'une hausse de l'incidence de plusieurs maladies chroniques. Les multinationales qui fabriquent ces produits tentent de se déresponsabiliser en disant que l'excès de consommation est un choix individuel et qu'on peut éviter l'excès de poids en étant simplement plus actif. C'est totalement faux car il est pratiquement impossible de brûler l'énergie contenue dans la plupart des produits industriels pour dépenser les 1000 calories d'un simple trio de restauration rapide, avalé en quelques minutes à peine, il faut courir plus de 90 minutes à un bon rythme. L'obésité était très rare avant l'avènement de ces produits industriels, en particulier ceux de la malbouffe. Et il n'y a plus de doute que c'est la consommation excessive de ces produits qui est la grande responsable de l'épidémie d'obésité actuelle. En plus d'être un important facteur de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète, l'excès de graisse agit comme un véritable carburant qui stimule la croissance des cellules cancéreuses. Ce rôle est particulièrement bien illustré par les résultats d'une analyse réalisée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies américains qui montrent que le surpoids augmente le risque de 13 types de cancers, dont celui de l'œsophage, de la thyroïde, de la vésicule biliaire, de l'estomac, du sein, post-ménopause, du foie, du pancréas, du rein, des ovaires, de l'utérus, du côlon et du rectum. Les chiffres donnent le vertige. Sur les quelques 630 000 cancers diagnostiqués en 2014 aux États-Unis, environ 40 % d'entre eux étaient liés à un poids excessif, une proportion qui atteint même 55 % chez les femmes. Ces statistiques sont d'autant plus alarmantes que le surpoids est devenu la norme chez les Américains, avec 33 % de la population adulte qui souffre d'embonpoint et 38 % qui sont obèses. Au total, c'est donc 71 % de la population qui présente un excédent de poids corporel et qui est donc à haut risque de développer un cancer. Pourtant, et malgré ces dangers bien documentés du surpoids, notre société demeure étonnamment passive face à la hausse fulgurante de l'embonpoint et de l'obésité qui touche l'ensemble de la population, incluant les enfants et les adolescents. Cette attitude est à plusieurs égards semblable à celle qui prévalait il y a 40 ans envers le tabac. On savait déjà à cette époque que le tabagisme augmentait de façon extraordinaire 40 fois le risque de cancer du poumon et plusieurs scientifiques avaient commencé à sonner l'alarme face aux dangers associés à cette mauvaise habitude. Ce n'est pourtant qu'après un long combat de plusieurs décennies que ces produits nocifs ont été bannis de l'espace public et qu'on a pu enfin diminuer le nombre de fumeurs. Les données scientifiques concernant les effets catastrophiques de l'obésité sur la santé sont actuellement aussi solides que celles qui existaient à l'époque sur les méfaits du tabagisme. Doit-on se résigner à attendre aussi longtemps pour réagir? Il perd la vie en faisant ce qui le passionnait. L'homme décédé samedi en faisant une chute de 5 étages alors qu'il préparait une activité de décalade était un passionné de ce sport qu'il pratiquait depuis 2 ans. C'était vraiment un homme passionné, un amoureux de la vie qui est parti beaucoup trop tôt à confier sa sœur Rebecca Brouillard. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées hier à l'endroit même du terrible accident, à l'angle des rues Clark et Sainte-Catherine, pour rendre hommage à Joseph Brouillard, 33 ans. M. Brouillard aurait été en train de s'échauffer en vue du défi caritatif « Sauter pour la liberté au profit d'Amnesty International » à la Maison du développement durable lorsqu'il a fait une chute mortelle samedi. L'activité de décalade qui consiste à descendre une paroi en rappel face vers le sol et qui devait servir à amasser des fonds a été annulée. « Vent violent à Mont-Laurier, des micro-rafales à près de 90 km à l'heure ont déraciné des arbres et arraché les toits d'au moins deux maisons à Mont-Laurier dans les Laurentides hier. Les vents puissants provoqués par le passage d'un front froid ont toutefois été de très courte durée et aucun blessé n'est à déplorer. 6 propriétés du secteur du lac Nadeau ont été endommagées et les résidents de 2 d'entre elles ont dû être évacués et sont pris en charge par la Croix-Rouge. Les pluies diluviennes qui charriaient les feuilles tombées au sol ont obstrué les égouts et inondé momentanément plusieurs rues dans la petite municipalité, a expliqué le maire Michel Adrien. Environnement Canada a indiqué avoir mesuré près de 40 mm de pluie dans certains secteurs des Laurentides.
J'espère faire valser les vieux fantômes jusqu'à la limite de nos origines pour qu'on puisse donner au soleil son diplôme. Le ménage se fera sans garantie légale. Je regarde au loin, mais les fenêtres sont sales. Faudra au moins s'assurer qu'elles donnent sur l'avenir. Tes bras comme une muraille protègent mon territoire. Viens-t'en régner sur mes détails et nous passerons.
Je
extrait du plus récent album de Tyr le Coyote. Tes bras, il me manque une partie du titre, alors je reprends. Tes bras comme une muraille.
Chose promise, chose due, le Montréal musulman en autobus, un centre communautaire propose un tour guidé pour lutter contre les préjugés. Alors, je vous disais que j'allais vous lire l'article. C'est ce que je vais faire à l'instant. C'est un article signé Lisa Marie Gervais dans Le Devoir. Pour combattre les préjugés et l'islamophobie, un organisme communautaire financé par les jésuites propose un tour guidé pour mieux faire connaître les différents visages de l'islam dans la métropole. Bienvenue dans le Montréal musulman. 1-2-1-2. Le guide teste son micro qui sonne comme une boîte de conserve et ça rigole. On redevient toujours un peu des enfants dans un autobus scolaire. À bord des jeunes et davantage de moins jeunes, des étudiants et des universitaires curieux, des croyants et des athées, quelques kidams, un béret et un foulard. On a d'abord pensé le circuit pour qu'il s'adresse à notre public naturel, des Québécois et des Québécoises à majorité francophone et qui n'ont pas les cheveux qui se dressent en voyant un hijab, convient Mouloud Idir, responsable du secteur Vivre ensemble au Centre Justice et Foi, organisme qui publie la revue Relations et qui s'intéresse depuis 30 ans aux questions d'immigration. Voilà un an qu'il planche sur l'idée d'une activité explorant les contours de cette « islamité québécoise », entre guillemets, en collaboration avec Montréal Exploration, une OBNL à mission éducative spécialisée dans les circuits d'exploration urbaine. Après tout, on balade bien les touristes dans le quartier des Juifs hassidiques ou le plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. Alors, en cette période où le Québec connaît une poussée d'intolérance, en particulier envers l'islam, pourquoi ne pas s'intéresser à la diversité musulmane à Montréal? Je suis venue parce que ces questions d'immigration et de racisme m'intéressent, explique Sophie Benoît, étudiante à la maîtrise. C'est le fun de visiter un quartier qu'on ne connaît pas sous cet angle. Mais Mouloud Idir insiste. Il ne s'agit pas de dire aux gens quoi penser. On sent que les gens se questionnent énormément et c'est pourquoi on a voulu réfléchir avec eux. Qu'est-ce que c'est de penser que l'islam fait partie du paysage matériel? Nous sommes l'une des rares organisations religieuses du milieu communautaire à prendre le sujet à bras le corps. Les cimetières, la radicalisation, la place des femmes. Durant 3 heures, on parlera de tout, sans tabou. L'idée du circuit qui comprend l'après-midi des échanges et une activité de bibliothèque vivante est de déboulonner les mythes et les préjugés. Il y a 9 % de musulmans à Montréal, selon les résultats du recensement incomplet de 2011 rapporté dans le dépliant remis aux participants. Mais ce ne sont pas tous des croyants. Beaucoup ignorent que plus de la moitié des musulmans ne vont pas à la mosquée, prend le temps de préciser la guide Catherine Brown, donnant du même coup le ton à la visite. Atténuer la religion. Premier arrêt, le Petit Maghreb. Sur Jean Talon, l'artère commerciale qui anime le quartier du Petit Maghreb, les cafés où on fume la chicha et les boucheries halal côtoient la lainerie Lépine et la poissonnerie Castel. Ici, 80 % des Maghrébins sont musulmans. Un très grand pourcentage parle français et ils sont très scolarisés. 41 % possèdent un grade universitaire, souligne Mme Brown. Après être passé devant 2 petites mosquées, l'autobus tourne sur une avenue. « Là, les pâtisseries sont très bonnes », me souffle Mouloud Idir en pointant un petit commerce de coin de rue. La gourmandise est le premier passeport vers les autres cultures. Mais au-delà des restos et cafés, il faut voir la capacité des gens à se réinventer, souligne cet Algérien d'origine. Il ne se cache pas qu'il est las des clichés, des regards qui ne s'attardent qu'à ce qui est différent. On veut essayer d'atténuer le poids de la variable religieuse et ethnique. On veut faire entrer des éléments d'ordre sociologique et parler des gens, de leur parcours migratoire. Ça donne plus de justice à ce que c'est. Bouchra Manaï, qui a fait un doctorat en études urbaines sur ce quartier, abonde. Il y a tout un vécu identitaire des gens qui est kidnappé par le discours sensationnaliste, constate-t-elle. Deuxième arrêt, Parc Extension. L'autobus file maintenant vers l'ouest, sur Jean Talon, dans Little India, où l'odeur de curry chatouille délicieusement les narines en ce samedi pluvieux. Une grosse cage faite de grillages de clôture grise trône au milieu d'un parc. C'est pour s'entraîner au cricket, lance le guide. Plus loin, le marché Maka, une épicerie pakistanaise, indienne, canadienne, déclenche les rires. On est bel et bien à Parc X, car tous les musulmans ne sont pas arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans, rappelle notre guide. L'autobus passe devant la mosquée Asuna Anabawiya, que le Pentagone aurait associée à Al-Qaïda il y a quelques années, selon les révélations des journaux. Le prétexte est bon pour parler de la couverture des médias qui sont accusés de ne montrer qu'un côté de la réalité. Existe-t-il vraiment un Montréalistan, concept étayé plutôt dans un livre par un journaliste d'enquête? Le guide s'en tient aux faits, parle des résultats des recherches sur la radicalisation et émet des doutes. Quelques minutes plus tard, une dame demandera à descendre de l'autobus. Le mystère demeure entier sur les raisons de son départ. Est-elle choquée ou avait-elle simplement autre chose à faire? Les gens qui sont venus ici se posent des questions et c'est déjà bien, a lancé Mouloud Idir, qui ne veut présumer de rien. L'autobus jaune s'est frayé un chemin jusque dans Côte-des-Neiges, où la vue d'un cimetière juif a permis d'aborder la question sensible des lieux de sépulture des musulmans. Des mosquées dans d'anciens ateliers de carrosserie ou au deuxième étage d'un bar de tequila ont fourni l'occasion de réfléchir au règlement de zonage. En fin de parcours, le clou de la visite fut certainement la mosquée Al-Islam du Centre islamique du Québec dans l'arrondissement Saint-Laurent, la première mosquée au Québec, 1965. Le bâtiment original a fait place à une construction plus récente, ornée d'un petit dôme vert et d'un minaret, la seule qui ressemble à une vraie mosquée, a lancé un participant. J'aurais beaucoup aimé la visiter, s'est désolée Gilda El-Malay, une juive marocaine retraitée de l'UQAM. Elle n'en a pas moins aimé son petit voyage. J'aime ce genre d'activités qui permettent de réfléchir. Je connaissais déjà le petit Maghreb, mais ça m'a passionné de découvrir toutes les facettes de la communauté musulmane. Mais qu'elle souhaiterait voir, au même titre que les synagogues et les églises, davantage de belles mosquées dans le paysage montréalais, pas juste des bâtiments qu'on cache. Et ainsi découvrir une islamité bien québécoise dont on se contente pour l'instant de parcourir les contours en autobus. C'est la chronique ou le texte de Lisa Marie Gervais intitulé « Le Montréal musulman en autobus ». Dans la section pause, vêtements pour enfants, Clément, chaîne de vêtements et d'articles pour enfants, a décidé de retirer de ses magasins un cache-couche créé par l'entreprise française Trois Pommes, sur lequel il est écrit « Un petit mec, c'est comme une fille, mais en plus fort. Hey Clément, on est en 2017. Les chandails sexistes, c'est non », a réagi Alexandra Auclay en publiant une image du vêtement en question sur Facebook. Plusieurs personnes ont par la suite manifesté leur stupéfaction et leur indignation. Odile Brunel-Beauchemin a formulé une plainte auprès de l'entreprise après avoir vu le vêtement au magasin. Clément a admis que ce cache-couche usait d'un humour douteux, a offert ses excuses et a assuré qu'il serait retiré de ses boutiques dans les plus brefs délais. Madame Brunel-Beauchemin a constaté que dès le lendemain, c'était chose faite à la succursale qu'elle avait visitée. La Presse Plus a contacté Clément, mais n'a pas pu obtenir les commentaires de la chaîne avant la tombée. Bon lundi à tous. En ce 16 octobre 2017, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir à Canal M, les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux. Oh,
La musique de Joran avec la pièce pour Gabriel.
Actualité internationale, des soldats montent la garde après le puissant attentat au camion piégé qui a causé la mort d'au moins 137 personnes samedi à Mogadiscio. Paris, Londres, Washington, Ankara et l'Union africaine ont assuré hier la Somalie de leur soutien. Cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, selon la police, a aussi fait 300 blessés. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée par les combattants djihadistes Shebab ou d'autres groupes. Mais les Shebab lancent fréquemment des attaques et attentats suicides dans Mogadiscio et ses environs. L'explosion est survenue en milieu d'après-midi au carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale, avec ses magasins et ses hôtels. L'Irlande a ordonné la fermeture de toutes les écoles aujourd'hui en prévision de l'arrivée de l'ouragan Ophelia, le plus important jamais enregistré, aussi loin à l'est dans l'océan Atlantique. Ophelia devrait se transformer en tempête post-tropicale, mais restera puissante aujourd'hui, à l'approche de l'Irlande et du Royaume-Uni, selon les dernières prévisions du Centre américain des ouragans. Ces deux pays pourraient subir un impact direct provoqué par le vent et la forte pluie, mais aussi par des conditions maritimes dangereuses, a précisé le Centre américain des ouragans. Les pompiers qui combattent les incendies qui ravagent la Californie disent voir enfin la lumière au bout du tunnel. Les vents se sont calmés hier de sorte que les pompiers ont pu gagner du terrain sur les flammes, contrairement à ce que craignaient les autorités. Même si la situation est loin d'être rentrée dans l'ordre, la fumée commence à se dissiper à certains endroits. « Le jour auquel nous rêvions est enfin arrivé », a déclaré la superviseuse du comté de Napa, Belia Ramos. Dans certains secteurs, les résidents ont pu regagner leur domicile. Le nombre de personnes faisant l'objet d'un ordre d'évacuation a baissé à 75 000, environ 25 000 de moins que la veille. Les incendies auraient causé la mort d'au moins 40 personnes et détruit quelque 5 700 maisons et autres immeubles. Le bilan pourrait néanmoins s'aggraver lorsque les secouristes commenceront à fouiller dans les décombres. France, Macron veut systématiser les expulsions des délinquants sans papier. Les immigrés clandestins qui commettent un délit en France seront systématiquement expulsés, a annoncé hier soir le président Emmanuel Macron au cours de sa première entrevue télévisée. Diplomatie, économie, pratique du pouvoir, 5 mois après son entrée en fonction, M. Macron, confronté à une chute brutale de sa popularité, s'est expliqué sur son action pendant une heure d'entretien sur TF1 et LC1. Il est notamment revenu sur la polémique née de l'attentat à Marseille qui a coûté la vie à 2 jeunes femmes le 1er octobre. L'auteur, Ahmed Anachi, tunisien de 29 ans, en situation irrégulière, avait été interpellé 2 jours plus tôt et mis en liberté alors que les conditions étaient réunies pour son expulsion. Une situation à laquelle le président veut mettre fin sans changer la loi. On prendra des mesures plus dures. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés, a annoncé le chef de l'État. C'est installé une sorte de pratique où celles et ceux qui sont en situation illégale sur notre territoire peuvent être contrôlés plusieurs fois. Parce qu'on s'est habitué à l'incapacité de les reconduire à la frontière, on ne prend plus toutes les mesures qui doivent être prises. Eh bien, cela va changer, a averti M. Macron, même si ça ne se fera pas du jour au lendemain. « La police britannique a élargi son enquête sur le producteur américain Harvey Weinstein pour y inclure 3 agressions sexuelles présumées commises contre une 2e femme. La Metropolitan Police avait ouvert une enquête après avoir reçu mercredi un rapport de la police de la région de Liverpool sur une agression sexuelle contre une femme qui aurait été commise par un homme dans l'ouest de Londres à la fin des années 80. Le 14 octobre, d'autres accusations ont été portées contre cet homme, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle a toutefois refusé de confirmer l'identité de la personne visée, celle-ci n'ayant pas été inculpée. Cet homme aurait agressé sexuellement une 2e femme à Westminster en 2010 et 2011, ainsi qu'à Camden en 2015, a ajouté la police, précisant qu'aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade. Harvey Weinstein, 65 ans, accusé de harcèlement, agression ou viol par une 30aine de femmes, est visé par une enquête policière à New York concernant une agression sexuelle présumée remontant à 2004. 5 actrices l'ont accusé de viol, dont Asia Argento et Rose McGowan. La dernière en date est l'actrice britannique Lizette Anthony, 54 ans, qui raconte avoir été violée par le producteur dans les années 80. Weinstein a démenti par l'intermédiaire d'une porte-parole toutes les accusations de relations sexuelles non consenties. Woody Allen s'est dit hier triste pour Harvey Weinstein, accusé de viol, agression ou harcèlement sexuel, et a jugé tragique la situation des femmes qui se déclarent victimes des agissements du producteur américain. C'est tragique pour les pauvres femmes qui se sont retrouvées impliquées, triste pour Harvey dont la vie est tellement bouleversée, a-t-il ajouté. Allons-y avec les actualités culturelles. Le sommet du design s'ouvre à Montréal. Pierre-Alain Gariépy était fort occupé vendredi. Le directeur général de l'Organisation du sommet mondial du design s'apprêtait en effet à recevoir à Montréal ce lundi matin des représentants de 13 organisations, dont 3 internationales, dans le domaine de l'architecture du paysage, du design intérieur, du design industriel, du design graphique et de l'urbanisme. La première édition du Sommet mondial du design ouvre en effet ses portes ce lundi aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal et on y attend des milliers de participants. Dès le premier jour du sommet, les invités seront conviés à lire la toute première déclaration de Montréal sur le design qui vise une meilleure intégration des disciplines pour assurer un développement durable. La déclaration consisterait en un accord vers lequel les 6 disciplines convergeront, dit M. Gariépy. On pourrait y réfléchir collectivement à une meilleure utilisation de l'eau dans les projets architecturaux, par exemple, et développer ainsi un design plus intelligent. En tout, le sommet accueillera 650 conférenciers sous le thème « Provoquer le changement par le design ». Le premier film de la Française Léa Misius, Ava, a remporté samedi soir la Louve d'or du meilleur long-métrage en compétition internationale au Festival du Nouveau Cinéma, le FNC. Cette comédie dramatique porte sur une adolescente de 13 ans, Ava, qui apprend durant les vacances d'été qu'elle devient aveugle. Le prix de l'innovation Daniel Langlois a été remis à Téhéran Tabou, un film d'animation qui aborde les interdits sexuels en Iran. Les faux tatouages, un drame portant sur le premier amour entre 2 jeunes marginaux du cinéaste québécois Pascal Plante, a remporté le Grand Prix Focus Québec Canada. Le prix de l'Association québécoise des critiques de cinéma a été remis au premier long-métrage de l'artiste culte Bertrand Mandico, Les garçons sauvages, un film érotico-fantastique qui porte sur 5 adolescents condamnés pour un crime sauvage qui se retrouvent ensemble sur une île. Les affamés de Robin Aubert repart avec le prix du public. Ce dernier film du réalisateur québécois nous amène à la rencontre de survivants qui veulent échapper à une horde de zombies. Le Loup argenté pour le meilleur court-métrage de la compétition internationale a couronné Copa Loca de Christos Massalas. Et Richard Therrien revient à l'émission Tout le monde en parle. Dan Bigras atteint d'un cancer colorectal. On sent toujours l'écorché vif en Dan Bigras, mais on sent aussi le courage. Au terme d'une entrevue déjà fort touchante, Guy Lepage a révélé à Tout le monde en parle que le chanteur était atteint d'un cancer colorectal et qu'il devait subir une opération le lendemain de l'enregistrement. Bonne nouvelle, l'opération a été un succès, a annoncé Dan Bigras sur Twitter. Reste que le cancer en est au stade 2 et que c'est sérieux. Dan Bigras attaque sa maladie avec confiance. « J'ai pas eu des phases de carême qui sont venues m'annoncer que je serais mort dans 3 semaines. Faut dédramatiser un petit peu. Son foie n'est pas encore atteint, ce qui est bon signe. S'il le faut, il y aura chimiothérapie de prévention. Des accès de fièvre et du sang lui ont fait penser qu'il y avait quelque chose. C'est un coup de luck d'avoir eu cette douleur-là. J'ai été chanceux, ils ont trouvé vite. Il a dû annuler le lancement de son livre et de son disque, mais tient à son traditionnel show du refuge qui aura lieu. Même si ça tourne mal, je vais quand même avoir un bon moral, parce que maintenant, c'est ça que j'ai depuis longtemps. Je suis heureux d'être au monde, dit Dan Bigras. Je vous ai rien caché, je vous ai tout dit, ajoutait le chanteur qui venait de parler de sa biographie et d'une compilation « Le temps des seigneurs ». Il est revenu sur son enfance difficile avec une mère souvent méchante et un père qui le battait, jusqu'à ce qu'il lui promette de ne plus lever la main sur lui. « Mon père a tenu promesse », a-t-il dit. Bigras a quand même quitté la maison à 16 ans, se retrouvant dans la rue en plein hiver. La musique l'a en quelque sorte sauvé. Il jouait du piano dans un bar, 4 spectatrices se sont approchées de lui et le propriétaire a décidé de le garder. Il s'en veut encore pour la mort de son frère qu'une relation trouble liait à leur père. « Je crois qu'il y a eu des attouchements sexuels », a-t-il laissé tomber, précisant qu'il n'avait aucune preuve de ce qu'il avançait. La carte du fou du roi, le vrai courage, la vraie légende, c'est pas le Dodge Ram, c'est notre grand Dan. Débilitante dynastie. La nouvelle mouture du feuilleton culte est aussi prétentieuse qu'insipide. La vague de résurrection de séries cultes atteint un bas-fond avec Dynastie, c'est ce qu'écrit Marc-André Lemieux dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. La nouvelle version du populaire soap des années 1980 est même trop mauvaise pour être qualifiée de plaisir coupable. Tout comme l'original, ce Dynastie du 21e siècle débute au moment où Fallon Carrington, interprété par Elizabeth Gillies, apprend une nouvelle qui risque de chambouler ses plans de carrière. Son père, milliardaire, Blake Carrington, Grand Snow, s'apprête à épouser Crystal Natalie Kelly, son antagoniste dans la tromperie familiale. S'ensuit une succession de manigances tout aussi inutiles qu'ennuyantes pour stopper cette union. Allons-y avec les journaux régionaux et je commence avec Le Quotidien. Je me rends à la page 5. Bon, allons-y. L'aventure en canot est lancée pour le bras robotisé. C'est Myriam Gauthier qui écrit le texte. Félix Olivier, Gérard Brisson et Audrey Martel ont entrepris dimanche leur périple en canot de 250 km sur le lac Saint-Jean, dans le but d'amasser les 12 000 $ manquants qui permettront à Charles Girard, un jeune chicoutimien atteint de paralysie cérébrale, de recevoir un bras robotisé. Le couple d'aventuriers expérimentés n'a pas reculé dimanche midi lors du départ donné à la marina de Saint-Félicien devant le temps froid et la pluie qui s'annonçaient. Dans le cadre de leur défi, la Canodicée vers l'autonomie, ils ont pagayé une dizaine de kilomètres lors de cette première journée d'expédition, avant d'installer leur campement à Saint-Prime avant la tombée de la nuit, a rapporté Samuel Fleurant-Beauchemin, président de l'organisme Pont vers l'autonomie. L'organisme accompagne les proches de Charles Girard dans la campagne de financement lancée en 2014. « Je suis impressionné par le courage et la détermination de ces gens-là », a-t-il souligné, lors d'un entretien téléphonique. Il a lui-même lancé la fondation après avoir perdu son frère, atteint de dystrophie musculaire de Deschênes, 2 semaines après avoir réussi à amasser les fonds nécessaires pour lui acheter un bras robotisé. Félix Olivier est le cousin de Charles. Aujourd'hui âgé de 24 ans, Charles, quadriplégique, a manqué d'oxygène à la naissance, mais ne présente pas de déficience intellectuelle. Un bras robotisé qui coûte au total 50 000 $ lui offrirait une plus grande autonomie. Le couple espère pagayer les 250 km du tour du lac Saint-Jean en 7 jours, si les conditions météo le veulent. Leur arrivée se fera à Saint-Félicien. La tribune Simon Roberge, dernière journée tranquille à la flambée des couleurs. La pluie a découragé la plupart des randonneurs à l'occasion de la dernière fin de semaine de la flambée des couleurs du Mont Orford. Ceux qui se sont déplacés dimanche ont toutefois eu droit à une très belle journée de plein air. Les couleurs sont encore très belles et ça risque d'être une des dernières fins de semaine pour les admirer. Avec un bon coup de vent et elles vont toutes tomber, note Charles Auger, résident d'Orford. Il faut en profiter pendant que ça dure. La flambée était d'ailleurs censée se terminer le 9 octobre, mais les organisateurs ont pris la décision de l'étirer sur une fin de semaine de plus en raison du beau temps. « On est très chanceux de pouvoir profiter de la montagne à ce temps-ci de l'année », poursuit M. Auger. « J'étais au sommet et ce n'était pas très froid. Dans 2 semaines, nous serons en novembre. De mémoire, c'est le plus bel automne que nous n'ayons jamais eu. » Dans le Nouvelliste, faire la course dans une citrouille, Gabriel Delisle qui signe l'article. Bécancour, une vingtaine de navigateurs du dimanche ont pris part samedi à la 17e édition des régates du Potiroton de Gentilly. À bord de grosses citrouilles, ils ont fait la course sur une distance d'1 km sur la rivière Bécancour. Les gigantesques fruits, dont plusieurs avaient participé à la pesée officielle du festival annuel, ont été creusés pour permettre aux navigateurs d'y prendre place. Certaines citrouilles étaient si grosses que 2 personnes pouvaient monter à bord. Charlie Auger est une navigatrice de citrouilles d'expérience. Malgré son jeune âge, elle en était samedi à sa 7e course des régates du Potiroton. « J'espère me rendre à 10. Si je ne coule pas cette année, je devrais me rendre à 10 courses », lancée à la blague quelques instants avant de prendre le départ, celle qui a concouru dans une citrouille de près de 500 livres. Qui a dit que c'était facile de parcourir 1 km à bord d'une citrouille géante? Bien qu'il soit délicieux en tarte, ce fruit n'a pas de propriété hydrodynamique. En réalité, il est tout le contraire de ce principe de physique. Et ce n'est pas un sport totalement inoffensif que de faire de la navigation dans une citrouille. Durant sa longue carrière, Charlie Auger a été témoin de plusieurs naufrages. Rien qui ressemblait à celui de Lexon Valdez, heureusement, mais des naufrages qui ont compromis les chances de terminer la course et qui donnent un coup à la fierté. La rivière n'est pas toujours profonde. Il y a certains endroits avec plus de sable que d'eau, témoigne Charlie Auger. Le défi quand tu restes pris ou que tu tombes, c'est de rembarquer. On s'entend, ce n'est pas un kayak, c'est une citrouille, ce n'est pas ce qu'il y a de plus stable. Lors du passage du Nouvelliste à cette course loufoque, quelques embarcations avaient d'ailleurs du mal à se tenir à flot. Samedi, les conditions de navigation étaient toutefois très favorables. L'eau n'était pas trop froide et le courant était suffisamment présent pour permettre aux compétiteurs de le suivre. Même si cette course n'est pas trop prise au sérieux, le gagnant remporte un trophée et la reconnaissance des autres. La première position revient cette année à José-Pierre Desautels avec un rapide temps de 14 minutes et 16 secondes. Dès les premières centaines de mètres, le navigateur de grosse citrouille filait à vive allure. Le podium a été complété par Joël Weber et Alexandre Moreau. Dans le droit, en fin de journée dimanche, à la clôture de l'événement, on parle ici des Mosaïques Canada. L'exposition d'art floral Mosaïques Canada a enregistré environ 1 320 000 visiteurs au compteur. Le succès est tout à fait fulgurant, considérant le fait que les objectifs les plus optimistes en début de saison visaient les 800 000 entrées. Des visiteurs de l'étranger sont venus d'aussi loin que de l'Angleterre, la France, le Pérou et la Nouvelle-Zélande pour faire le tour des installations florales du parc Jacques-Cartier. En tout, 600 bénévoles et 350 employés et sous-traitants ont mis la main à la pâte pour assurer le succès de ces 107 jours d'exposition. Les chiffres et statistiques finaux seront dévoilés dans environ 2 semaines et on devrait savoir d'ici décembre si l'exposition reviendra l'an prochain. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a annoncé samedi l'implantation de 30 nouveaux jardins communautaires dans la ville. Du financement supplémentaire a permis à la ferme de l'organisme Alimentation Juste de créer ces nouveaux jardins. Du financement supplémentaire a permis à la ferme de l'organisme Alimentation Juste de créer ces nouveaux jardins et d'en agrandir 4 autres déjà existants, ce qui porte à 94 le total des jardins et potagers du réseau des jardins communautaires d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Voix de service quotidien en ce lundi 16 octobre 2017. Ici Hélène Denis. Merci Jean-Sébastien. La liberté à la mise en onde et au choix musical. Bonne journée à tous. On se retrouve demain et je vous retrouve quant à moi au Par Actualité dans quelques secondes si vous nous écoutez en ce moment en direct.